Cette semaine, sur Graphic Matter, j'ai le plaisir de recevoir Édition Studio. Édition Studio, c'est Victoire Cognon et Adrien Ménard qui se rencontrent pendant leurs études à Paris et qui aujourd'hui sont installés à New York. J'ai retenu de cette conversation la manière particulière qu'ils ont de créer une relation avec leurs clients, leur volonté de proposer un langage visuel plus qu'une identité, une représentation non figée, évolutive avec le temps parce qu'on sait très bien que le client va bidouiller, composer, s'approprier la proposition. Dans leur travail, Victoire et Adrien recherchent la simplicité. Ils prennent leur temps, voire le perdent un petit peu pour questionner et améliorer toujours la spontanéité. Enfin, ils tirent leur inspiration de la rue et dans la ville de New York, je vois très bien pourquoi. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Victoire, bonjour Adrien.
Bonjour.
Bonjour Louise.
Merci de me recevoir chez vous à New York. Je suis très contente d'avoir profité de cette occasion pour vous rencontrer, parce que je voulais vous rencontrer depuis longtemps.
Ben, merci à toi. Nous aussi, on est contents de te rencontrer. Ouais.
Commençons par le début, et le début de votre collaboration, du coup, qui date de l'école.
Ouais.
Exact.
C'est ça. C'est ça.
Et est-ce que vous avez commencé à travailler sur des projets ensemble à l'école, et après vous vous dites, tiens, et si on faisait tout le temps ça?
Je pense que oui. Je pense que en fait, le début de notre collaboration, c'est chacun de notre côté être dans une promo différente et partager déjà une relation de couple ensemble et se critiquer les uns les autres nos travaux d'école.
Ouais.
Je pense que rapidement, on a eu des petits projets de branding pour des amis d'amis. Et on s'est dit que tant qu'à faire, autant le faire à deux plutôt que de se mettre tout seul là-dessus. Et ça a commencé un peu comme ça.
Ouais, le fait de tout, c'était assez logique, le fait de faire le même boulot, de vivre ensemble. Et du coup, même quand on ne travaillait pas ensemble sur un projet, ben, en fait, à un moment dans la journée, il y avait forcément « Ah tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? C'est nul, bon d'accord, je vais faire différemment. » Et du coup, on a appris et à travailler ensemble de manière assez progressive et logique, quoi.
Ouais. Et donc, c'était logique, et est-ce que ça a été, est-ce que ça allait encore des fois difficile? Est-ce que tout est plus simple?
En fait, c'est assez intéressant. En général, quand on... Dès qu'on discute et qu'on parle et qu'on bosse ensemble, vraiment, parce que ça nous arrive aussi parfois de dériver et d'être de notre côté un peu, mais dès qu'on en discute, en général, c'est logique, ça avance vachement plus vite, on se connaît très bien, on sait ce que l'autre veut exprimer en général quand on parle de design. Donc, et aussi, je pense que notre œil, il a évolué, notre œil, il a évolué ensemble.
Et alors, avant même la formation, comment est-ce que tous les deux, vous avez été attirés par le milieu de l'image et de l'art appliqué?
Moi, je pense que ça vient assez tôt. En fait, petite, je dessinais beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Ma maman aussi peignait, dessinait beaucoup. Et au collège, j'étais aux Beaux-Arts le mercredi après-midi pour suivre des cours de dessin. Et donc, j'ai rapidement fait un bac art appliqué.
Et moi, c'est pareil. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment... Enfin, j'ai comme toujours aimé les images. J'ai toujours aimé les flyers de concerts. Quand j'étais assez... Je faisais de la musique. Mais moi, je n'ai pas commencé tout de suite le design ou l'art ou quoi que ce soit. Enfin, je faisais des choses, mais en tout cas pas à l'école. Moi, j'ai fait une formation qui n'avait rien à voir. J'ai fait de l'électricité.
Ok.
Et en fait, une fois que j'ai terminé ma formation d'électricité, que j'ai commencé à bosser, je me suis dit, bon, bah voilà, ça suffit. Je sais que je veux faire du design graphique et donc je vais aller faire du design graphique.
Ok.
Donc j'ai switché et je suis allé dans une école de design.
Mais du coup, après l'école, vous saviez tout de suite que vous voulez créer votre propre structure, avoir un studio?
Non.
Comment se font, quelles sont les différentes étapes?
Pas du tout, je pense pas. Je pense que oui, on collaborait ensemble, mais on s'était pas forcément dit qu'il y aurait un studio de notre pratique commune. qui va en être. Ce qu'il y a, c'est plus les expériences professionnelles, chaque expérience professionnelle t'offre à la fois un apprentissage positif et aussi un apprentissage qui te dit ce que tu ne veux pas faire. Et je pense que ça nous a un peu amené à ça, parce que finalement, comme on disait, ça marche en général par la discussion et l'échange qu'on a ensemble, et on a pu comparer ce que nous on produit ensemble à ce qu'on produit avec d'autres, et c'était plus simple.
Et c'est pareil, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu l'évolution qui s'est faite de manière logique, parce qu'au début on avait juste envie de faire des expériences dans des studios ou des gens qui ont un travail qu'on apprécie et puis apprendre en fait mais aussi il y a toujours eu des gens qui nous ont contactés à l'extérieur pour faire des travaux, que ce soit moi ou Vic ou nous deux. Et donc pareil, on travaillait forcément ce projet tous les deux.
Ouais.
On ne pouvait pas faire autrement. Et donc on s'est dit, à force de faire des projets comme ça, autant mettre un nom dessus, autant officialiser un minimum la chose. Comme ça, s'il y a des gens qui nous contactent ou des gens qui voient notre travail, ils savent que c'est le travail qu'on fait tous les deux. Et peut-être qu'il y aura plus de clients, de collaborateurs qui nous contacteront.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'on a commencé Édition Studio à la base.
D'accord.
Vraiment juste pour avoir une plateforme.
Ouais. Et c'est une entreprise. C'est pas juste un nom.
C'est une corporation.
Ouais. Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là vous avez un objectif éditorial ou une idée du genre de projet sur lequel vous voulez travailler, le type de client que vous voulez avoir? Vous savez déjà?
Je pense qu'au tout début, non.
Ouais.
Parce que en fait, on a mis un nom sur ce studio, mais on avait tous les deux en parallèle quand même des travaux qui nous permettaient de vivre. C'est un studio, ça te permet pas de vivre tout de suite.
Des jobs purement alimentaires.
Bons jobs aussi en agence. Mais en fait, Édition Studio n'existait que si quelqu'un venait nous voir et nous demandait de travailler pour leur projet ou en collaboration avec eux. Donc finalement, c'était plutôt ponctuel, mais pas en day-to-day, quoi. C'était vraiment...
On n'avait pas de programme précis ou de grands projets, quoi.
Donc on avait, c'est ça. Il n'y avait pas d'une idée, une ligne directrice. Même si, bien sûr, peut-être aujourd'hui plus.
Ouais.
Et encore. Et encore, ouais.
C'est un peu go with the flow.
C'est un peu...
En ce moment, on est tous les deux à plein temps et on a des projets, évidemment, qui nous feraient rêver. On a du travail. Je sais pas si on a une grosse stratégie de l'idée de comment ça doit évoluer.
D'accord. Il n'y a pas des objectifs forcément que vous voudriez atteindre.
Pouvoir en vivre correctement.
Ouais.
Ça c'est important parce que sinon on va être obligé de faire autre chose de toute façon.
Ça commence à être le cas de pouvoir en vivre.
Ouais. Là avec Édition on en vit plutôt bien.
Ok, cool.
Ça paye le loyer, ça nous nourrit.
Oui.
Donc c'est déjà bien.
Après,
il y a des objectifs, il y a des tailles des clients, types de clients qu'on aimerait bien commencer à toucher en termes de taille des institutions. Actuellement, là, on travaille. En fait, on a un peu deux types de projets. On a des projets où on travaille directement avec des clients, des gens qui nous contactent, ou on collabore avec eux, qui peuvent être... En général, c'est des stores, des petites marques de fashion.
C'est plutôt des petites...
Ou des artistes, plein de choses comme ça.
Mmh. Et c'est eux qui viennent à vous ?
Ouais. Mmh.
D'accord. Vous n'avez pas forcément cherché...
Non, on apprend à faire ça.
On a eu de la chance, on a eu beaucoup de chance. On n'a jamais vraiment...
On n'a jamais cherché.
Reach out, cherché...
Comment ils viennent à vous? Il y a du bouche à oreille? Est-ce qu'ils vous voient votre site, Instagram?
Il y a un
comment
peu
ils vous
tout.
Trouvent
okay. ouais. Il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est bien.
Ouais.
Et il y a des choses...
Je pense que c'est beaucoup de bouche à oreille aussi.
Ouais. Des projets qui amènent d'autres projets, des gens qui parlent d'avoir collaboré avec nous. Mais il y a aussi quand même aussi une bonne part de mystère, on ne sait pas toujours. Mais on aime bien demander aux gens comment ils s'en sont arrivés à nous. Mais... Et ce qu'Adrien disait, il disait qu'il y a deux types de projets. Donc il y a ces gens-là, mais il y a aussi des agences qui sont des structures plus grosses que la nôtre, ça,
bien
c'est
plus,
sûr.
Ouais, des grosses agences.
Et qui ont besoin de nos compétences sur certains projets. Donc, on est un peu des sous-traitants à ce moment-là.
On fait du consulting.
Mais c'est pas désagréable parce que moi, j'aime beaucoup être en contact avec le client parce que je pense que c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Ça amène souvent à des projets que... Enfin...
Oui.
Plus intéressant que quand t'es en bas de l'échelle et que tu vois pas le client.
Ouais.
Mais dans le consulting, il y a quelque chose d'intéressant, c'est assez rapide comme processus. Et du coup, la rapidité amène que ça se passe plutôt très bien.
Ouais.
Et ça, c'est notre deuxième partie du boulot. Ouais.
Vous en parlez pas mal de ce côté enrichissant de la conversation, comme tu disais, entre vous deux, mais aussi avec le client.
Ça c'est hyper intéressant.
Et c'est vraiment ça qui permet d'amener un projet qui vous plaise à vous, qui plaise aux clients, et un projet surtout où vous pouvez vous amuser.
Enfin, qu'est-ce que ça permet ? Et c'est ça aussi qui permet aussi que les clients nous recommandent, je pense.
Ouais.
Parce que on crée une relation avec les clients. On leur demande parfois beaucoup aussi, parce que le but de la conversation qui commence au début, c'est uniquement de la conversation. C'est d'essayer de les comprendre.
Ouais.
Comprendre leur projet et comprendre parfois même pas ce qu'ils imaginent que leur projet va être, mais en fait ce que c'est que leur projet. C'est la différence. Tu sais, parfois les clients, ils ont un rêve de ce que va être leur projet, de qui est leur client, etc. Mais c'est pas toujours la réalité.
Ouais.
Et donc on a ces longues conversations. Qui sont hyper intéressantes. On apprend plein de choses. Donc.
Du coup, c'est une conversation où vous avez aussi un rôle un peu stratégique et hésiter à se positionner correctement.
Ouais, peut-être un peu. J'oserais pas dire, parce que c'est pas vraiment mon métier, donc j'oserais pas dire que je fais vraiment de la stratégie, mais on a une stratégie pour comment approcher le design.
Okay.
On nous dit souvent qu'on est un peu leur thérapeute.
Ouais, c'est ça. On pose beaucoup de questions.
On commence par un questionnaire, en fait, tout le temps.
Avec eux ou que vous leur envoyez?
On leur envoie.
Okay.
On leur demande d'y répondre. Et il y a plusieurs types de clients. Il y a les clients qui se prêtent au jeu et qui vont écrire beaucoup.
Ouais.
Et c'est très enrichissant. Et il y a les clients un peu plus timides qui vont juste être droit au but.
Des réponses très business, par exemple.
Et du coup,
sont parfois même hors sujet, du coup. Parce que c'est pas du tout la question.
Du coup, nous, on a besoin d'informations pour essayer de vraiment comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent représenter, etc. Et donc, on a tendance à toujours
répéter les mêmes questions plein de fois.
Parce que plus vous aurez l'information, plus vous pourrez être précis.
Ouais. Et puis je pense que dans notre travail, on cherche à gather, à récupérer, en tout cas, des éléments... un peu disparate de ce que les gens font, et c'est à partir de là qu'on construit l'identité, ce qu'on appelle le langage visuel de nos projets, quoi.
C'est une sorte de stratégie, mais c'est une stratégie visuelle parce que c'est vraiment on arrive toujours avec une idée de mots concept, et derrière ces mots concept on va mettre des images, et ces images on va les tourner de façon différente pour peut-être proposer différentes directions. Et c'est là où on voit tout de suite vers quoi ils vont, et donc on comprend que déjà on a fait un pas.
En fait, on design pas beaucoup au début.
on avance petit à petit, mais c'est assez. C'est mots, images, et après on construit.
Donc vous parlez pas d'identité visuelle, vous parlez de langage visuel.
Ouais. Exactement.
Vous voyez ces deux choses un peu différemment. Enfin, c'est différent.
Ouais. Et j'aime bien le mettre encore plus en opposition avec l'idée de branding.
Ouais.
Parce que, nous en tout cas dans la manière dont on approche ces projets-là en général, on fait pas vraiment du branding parce que ça paraît trop figé comme idée. le branding, alors qu'un langage, c'est un truc, c'est quelque chose de vachement plus fluide et qui évolue. Et on se fait toujours cette, on a toujours cette idée, parfois les clients l'ont et les designers aussi, que on met en place une identité visuelle ou un branding et puis ça y est, c'est le Graal, c'est figé, la boîte elle va marcher pendant 10 ans avec l'identité, ils vont suivre la charte graphique au poil, ça n'existe jamais.
Ouais.
Et à partir du moment où, et d'ailleurs même les designers graphiques qui n'arrivent pas à le faire en fait, même si on essaie de suivre une charte graphique, il y a des exceptions. Ouais, il y a des exceptions et puis c'est, et en fait c'est vivant. Donc du coup c'est pour ça que le langage, l'idée de langage correspond mieux, parce qu'en fait on met en place cette espèce d'association de d'images, de couleurs, de typos, de vocabulaire. C'est un vocabulaire visuel qui peut être combiné, interchangé, agrandi, rapetissé. Et ça permet aussi de se détendre par rapport à la relation qu'on a avec les identités qu'on produit. Et de ne pas être frustré en se disant ah, on a envoyé ça au client et maintenant qu'il l'a dans les mains, il a tout pété.
Oui, parce qu'il paraît qu'il pète tout derrière.
Ouais, mais en fait, ils ne pètent pas, ils utilisent le matériel. Qu'on... Enfin,
du coup, c'est presque plus au rôle du designer d'arriver à donner les bons éléments pour que la personne qui le prend en main derrière
se les approprie. Puisse,
ouais, tout en respectant votre idée. Ouais.
Et c'est super dur, mais c'est intéressant.
Ouais. C'est super dur, et puis même... En ayant aussi été à la place peut-être d'un client quand tu bosses dans une agence et qu'il y a une marque qui t'amène sa guideline et tu dois utiliser sa guideline et produire d'autres éléments, en tant que designer, parfois tu te dis mais t'as envie de bouger les choses.
Mais parce que tout simplement ça ne correspond pas.
Ouais, et parce que les choses ont évolué et donc finalement ça vient aussi... Tout ça, ça crée une loupe sur édition. C'est que on dit tout souvent que on crée des éditions parce qu'en fait, vu que c'est pas figé, et ben en fait, chaque projet est une édition à un moment donné et
une itération.
Et du coup, une identité qu'on peut dire finie aujourd'hui peut continuer à évoluer, et si même un autre designer prenait la direction d'une marque pour laquelle on a travaillé, il créerait certainement une autre édition.
Il ferait une réédition.
Ouais, ouais, c'est ça.
Okay. Okay. Et vos clients, ils sont new-yorkais principalement aujourd'hui ?
Non.
Ils sont new-yorkais et parisiens ?
Ouais.
On a les deux ?
Les deux en principal. Après, on a des clients à Los Angeles, potentiellement... En Asie.
Ouais, en Asie, on a quelques personnes qui nous ont contactées. Miami.
Ouais.
Ouais, c'est un peu diverse. Ouais.
Ok, trop bien. Et vous pensez que vous allez rester à New York ou c'est quoi vos plans ?
C'est une grande question.
Et déjà, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici ? Ça fait combien de temps ? Un peu plus de 5 ans ?
Ça fait 9 ans.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Ok.
Rapidement
après l'école alors ?
Juste après.
Ouais.
Ouais, c'est moi, mon projet de diplôme. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé un job à New York.
D'accord. Donc, ouais, pour l'instant, vous êtes bien ici.
Ouais.
Est-ce que vous sentez des différences sur le design à New York ? Enfin, même si ça veut rien dire, mais les façons de faire ici, ou peut-être les façons que les clients ont de penser. Enfin, je suis sûre que les relations que tu peux avoir avec un client new-yorkais, il n'est pas le même avec un client parisien.
Ouais. Alors après, ouais, c'est vrai. Après, notre relation à nous, elle est différente du coup avec les clients français et les clients américains, ça c'est sûr. Après, ouais. Ça dépend des entreprises aussi. Mais vu que ça fait longtemps qu'on est parti de France, je ne sais pas si c'est vraiment comparable à quelqu'un qui travaille en France et qui a une relation avec ses clients français. Mais oui, il y a des différences. Après, comme Paris, remarque, mais ici, il y a des designers de partout dans le monde, vraiment. Donc déjà, ça, c'est intéressant dans les agences de collaborer avec tout le monde.
Il y a une sorte de confiance aussi qui est assez...
qui est assez incroyable.
Enfin, en fait, je pense que il y a beaucoup d'étrangers à New York, et c'est ça qui fait la richesse de cette ville. Et du coup, dans les designers, en tout cas avec qui on a collaboré, on a travaillé, c'est souvent ça qui rend les projets intéressants.
Pour ajouter sur le fait que tu dis qu'il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de diversité.
Ouais.
Et ça, c'est vachement bien dans les agences, pour les projets, parce que ça enrichit les projets, enfin, tout simplement.
Ouais,
d'avoir des gens de différentes visions, qui viennent de différentes cultures, qui parlent différents langages, etc. C'est top.
Je pense
et ça permet de te rappeler à l'ordre souvent. sur comment tu abordes un projet, parce que tu es un peu bloqué dans ta... Enfin, on est tous comme ça, hein. On a été éduqués d'une certaine manière, on a une certaine obsession pour certains trucs. Et parfois, les autres designers, ils sont là, mais moi, je comprends rien à ce que tu fais. Et tu dis, ok, on va faire différemment.
Ok. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Que la vision que tu peux avoir, toi, dans ta tête, peut-être qu'en fait, quelqu'un d'autre la comprend pas, comme toi. Ouais. Parce que les cultures sont différentes.
Parce que, ouais, c'est ça. Et en fait, les règles du design sont pas... Enfin, il n'y a pas de grandes règles du design. Donc, en fait, on nous apprend des méthodes. Mais parfois, on peut les remettre en question aussi.
Je vais passer du coq à l'âne. Mais vas-y. Vous avez aussi une fonderie.
Ouais.
Vous dessinez des caractères typographiques. Ça, c'est aussi le cas depuis le début.
Bah, ouais. Ouais.
C'était d'avoir un studio de design qui soit aussi fonderie.
Ouais. Bah, en fait, il y avait deux caractères que j'avais commencé à dessiner à l'école. Et j'ai mis une image sur Internet ou sur mon site. Enfin... Et les gens ont commencé à contacter pour essayer de... pour tester la fonte, pour l'utiliser. Et donc, du coup, logiquement, bah, voilà, à force de recevoir des mails, c'est un peu galère de répondre toujours aux mails, etc. Donc, pour essayer... Et puis même pour les gens hein, qui demandent, on aime bien recevoir les choses dans l'immédiat. Donc, c'était pratique de mettre en place un site, une fonderie. C'est un peu un grand mot parce qu'on est vraiment tout petit. Mais en tout cas, une plateforme qui permet de simplifier l'interaction et de faciliter les choses.
D'accord. Et quelle place elle tient dans tout le travail de édition studio, le dessin de caractère et la typographie?
Bah, je pense qu'au jour le jour, c'est plus dans les projets un par un, plus les projets de branding qu'on a, que le travail typographique, il est
présent,
important.
Il y a aussi beaucoup dans le consulting.
Et ouais, enfin... En fait, une typo, ça met du temps à se faire. Donc, du coup, on n'a pas forcément le temps d'en sortir des nouvelles. Mais par contre, chaque projet est prétexte à ce qu'on propose une version custom d'une de nos fontes déjà présente ou dans le lettrage pour un logo, ça nous paraît assez évident. On est incapable
comme on disait tout à l'heure, quand on parlait de langage visuel, finalement, on travaille avec quand même que quelques éléments, quoi. On travaille avec la lettre, l'image et la couleur, en gros. Et puis après, il y a la composition. Et donc, en fait, la lettre a une place quand même hyper importante. Et aussi, pour parfois faire un pied de nez à cette idée de branding et de logo, on aime beaucoup avoir une typographie qui devient en fait qu'on pourrait être l'identité, le logo. Et qui du coup, il n'y a plus besoin d'un élément figé qui pourrait être le logo sous forme d'Illustrator ou de JPEG. Mais finalement, c'est un petit software qu'on installe et qu'on peut écrire n'importe quoi avec. Mmh.
Et vous parlez aussi, quand j'épluchais votre site, de simplicité. Et que pour vous, c'est dans la simplicité qu'il y a les images les plus fortes. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi?
Et est-ce qu'avec la simplicité, on peut quand même arriver à être très singulier et précis?
C'est toute la complexité de ce sujet-là, mais qu'on adore.
La simplicité, oui.
Je pense que...
Simplicité, c'est compliqué.
Bah oui, mais c'est pas... Oui. Ouais. Faire la bonne chose simple, c'est dur.
Ouais.
Bah c'est souvent, oui, c'est ce qui est souvent dit, c'est le challenge. Mais en fait, en tout cas, nous, on aime beaucoup les designs qu'on dit simples, mais finalement vernaculaires, les designs de rue que tu peux trouver sur un panneau de parking ou sur une signalétique... d'un bodega, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui attirent notre regard et on est entouré de ça au jour le jour. Et parfois, on trouve du génie là-dedans parce qu'ils ont étiré la typo ou parce qu'une lettre est retournée ou parce que... Et en fait, c'est cette apparence très simple quand on le voit dans la rue. Mais quand nous, avec notre regard de designer, on l'épluche et on essaye d'en chercher une sorte d'ADN et de le reproduire. C'est très dur à reproduire, mais c'est ça qui nous plaît et ouais. c'est ça qu'on appelle simple. Et
simple, ouais. Non, c'est compliqué la question de la simplicité, mais je pense que c'est assez essentiel en fait.
Et vous accordez une grande importance à l'idée, au concept. Est-ce que c'est la base de tout un projet?
Bah, ou pas forcément. Ça aide beaucoup, ouais.
Ouais. Ouais.
Ça aide de mettre un mot en fait, qui est un peu un fil conducteur. C'est marrant parce que parfois on revient sur le projet et on se dit, ah, c'est marrant, c'était ça le mot du début. Mais en général, ça marche assez bien.
Non, et puis ça aide beaucoup à communiquer avec la personne qu'on a en face de nous, en fait. C'est une fois qu'on a trouvé justement ce concept, cette idée, et que le collaborateur est d'accord avec, bah tout...
Ça fait sens.
Tout s'enchaîne.
Tout s'enchaîne de manière logique. Et,
on a même une histoire marrante. On a un projet là, de branding d'un hôtel qu'on a fait, qu'on est en train de finir. Et le mot de départ est devenu le nom du restaurant.
Ah ouais,
Après
la discussion, finalement, okay. le mot qu'on s'était tous mis d'accord qui devait représenter le restaurant,
enfin, en fait,
qui devait nous aider à conceptualiser le design,
est
devenu. Ils ont décidé que finalement c'était bien, et donc ça allait devenir le nom du restaurant. Donc c'est... Ouais. Mais là c'est bien, du coup ça prouve qu'on était ok, on était en phase, et on avait trouvé un mot qui allait nous aider. Alors après, est-ce qu'il est visé, est-ce qu'il est compréhensible aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas ça aide beaucoup dans la communication.
Et c'est quoi le temps que vous passez sur un projet par exemple?
Il n'y a pas de... ça par contre on est... je sais pas si on n'est pas très bon là-dessus. C'est qu'on on a du mal à déposer des deadlines. Parfois c'est de notre faute, parfois c'est de la faute de notre interlocuteur. Je sais pas si c'est une faute d'ailleurs. Mais tant qu'on n'est pas satisfait ou qu'il y a une conversation... Par exemple, le temps de la conversation, il peut être super long, quoi.
Ok.
Dans le devis de base, on pose des dates, on pose quand même... on essaye de poser un calendrier, mais c'est vrai que la réalité fait que si ton client a décidé, lui, de prendre 2 semaines de vacances quand toi tu pensais qu'il allait te répondre et te donner des retours, et ben t'as un peu ça recule. Et puis après il y a la réalité aussi de la vie. Par exemple, cet hôtel dont je viens de parler, il y a eu le Covid, les travaux ont mis du temps, et donc
il y a eu un an de retard.
Donc il y a eu beaucoup de temps de retard. Ouais.
Mais donc il y a donc les projets, ils vont, je pense, du plus court à un mois, on va dire, jusqu'à 2 ans.
Ok.
Ouais. Ouais. Ou plus si c'est des projets de police de caractère, par exemple.
Ouais.
C'est quoi le projet sur lequel vous avez bossé qui a été le plus excitant pour vous?
C'est dur, ça.
Je pense là, en ce moment, on est sur un très beau projet. Qui est excitant, c'est Fawa, parce que le sujet nous intéresse. Ça va être plutôt un lieu associatif, où du coup vont se mêler des expositions, donc de la restauration, toujours
des animations pour les enfants du quartier,
toujours la restauration dans une idée de petit prix, parce que ça, il y aura toujours cette idée de récupération d'un vendu. Mais il faut que ce soit affordable et que ça permette aussi à des associations de récupérer des repas. Et il y aura aussi toujours la culture de la nuit qui sera là, mais pas forcément teuf, mais peut-être spectacle, concert, etc.
Enfin, du coup, ça, c'est un projet qui est hyper intéressant parce que déjà, on est content d'y participer.
Ouais.
Parce que c'est une belle idée. Et en plus, c'est un projet hyper complet avec plein de types d'éléments.
D'intervenants,
de contacts, de projets différents. Donc, ça, c'est un projet qui est assez excitant. Ouais.
Et vous en êtes à quelle étape là, alors, en ce moment?
La fin,
ça y est, bientôt. Ouais, c'est bientôt on ne sait pas quand est-ce que ça va ouvrir, mais bientôt.
Très bientôt.
Et donc, ce que vous avez produit, ça vous plaît?
La difficulté d'un projet comme ça, c'est pareil, c'est un projet qui a été freiné par le Covid énormément. Et c'est quand tu fais une identité 2 ans auparavant et que tu te demandes si elle sera toujours d'actualité ou elle sera...
Et surtout que tu commences à l'appliquer
obsolète,
tard en fait.
Boring.
Okay.
Mais c'est bien, c'est un bon exemple aussi de ce qu'on disait tout à l'heure.
Ouais.
C'est que on a mis en place, on a travaillé une identité, justement, avec toute cette démarche de conversation, etc. Et puis après on n'a rien fait. On a attendu que le Covid et tout ça passe et que les travaux avancent.
Ouais.
Et le jour où finalement on se retrouve avec ce qu'on avait fait à l'époque et qu'il faut produire des éléments, bah là ça on se rend compte que peut-être que ça marchait pas tout à fait très bien quoi.
Mais ouais, c'est pas grave. On a fait évoluer quand même un peu, même si pas tant. On est content, ça va être bien. Intéressant.
Et par exemple du coup avec ce projet qui a pris son temps et dont vous avez pondu quelque chose et vous y revenez après, est-ce que c'est justement la simplicité que vous mettez dans votre travail qui permet d'être le plus intemporel possible et de passer l'épreuve du temps où
ouais, on essaye.
Tu regardes 2 ans avant, t'es pas là en mode ah c'est horrible ce que j'ai fait.
Ouais. Bah ouais, et je pense que c'est sûr, il y a ça, et il y a aussi le fait que justement si on soit pas pressé dans la manière dont on travaille, on prend le... C'est pour ça d'ailleurs que du coup on perd beaucoup notre temps, mais pour une bonne cause, et en fait on aime ça, perdre un peu notre temps, je pense.
Mais on a très peur de la spontanéité, tu vois, l'outil Instagram, poster quelque chose... T'as fait quelque chose, t'es content, tu le postes, c'est pas nous. Nous, on fait pas ça.
Ouais.
On est incapable de faire ça.
Vous mettez beaucoup de réflexion dans ce que vous faites.
Ouais.
Ouais. Et bah, parfois, c'est
et
même
de
juste. Ouais, et parfois, c'est juste de l'attente aussi, finalement. Juste d'attendre un peu pour être sûr de pouvoir le temps de step back et de se dire, OK, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est toujours real event? Et si oui. Ok, on avance.
Mais c'est peut-être pas toujours bien, hein, parce que, enfin, on le sait.
Par exemple, on est un peu plus lent.
On est lent, mais en typo, on a beaucoup de projets, qui sont pas finis du tout. Mais parce que on est tout le temps en recherche,
remise en question.
On voyage quelque part, il y a quelque chose qui nous intéressait, on revient, on en fait une fonte, mais on la finit pas. Et peut-être on la finira.
C'est l'idée de mariner.
Ouais, exactement. Ouais.
Que
ouais.
C'est là,
ça marine, exactement.
Ça marine et qu'il y a un moment, on va voir un truc qui va nous faire dire OK.
C'est marrant d'ailleurs que tu dis ça parce que hier, on était avec une artiste avec qui on travaille. Et elle a utilisé ce mot-là pour définir comment on travaille. Elle disait marinated.
Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps et ça m'a mis le mot que c'était ok de qu'un projet prenne du temps avant de démarrer parce que ça marine et que ça veut pas dire que tu fais rien mais juste que c'est ton processus, c'est que il y a juste un moment il y aura un déclic qui fera que tu pourras t'y mettre dans un sens.
Quand tu fais mariner une sauce, le goût se concentre. Le goût devient plus puissant, plus concentré, plus simple.
Vous m'avez montré votre nouveau site que vous allez bientôt sortir et donc je me demande pourquoi un nouveau site. Est-ce que, à quel moment, au bout de quelques années, vous vous dites il est temps de changer?
Parce que, déjà, en vrai, ça fait pas si longtemps qu'on est à plein temps sur édition, tous les deux.
D'accord. Et ça fait combien de temps?
Un an.
Un an max. Ouais.
Okay. Il y a eu des périodes où on a toujours ça.
Non, mais je trouve ça bien de le dire que
c'est
pas facile et que c'est pas immédiat et que.
Et puis c'est pas un problème d'ailleurs. On est tous les deux dessus, on aimerait bien continuer comme ça pendant longtemps, mais on s'est aussi dit, quand on s'est remis à plein temps dessus, on s'est aussi dit que s'il y a un creux de quelques mois, ça nous empêche pas de faire autre chose. Trouver un autre boulot de part, d'aller travailler dans une entreprise pour un certain temps. Enfin, en fait, la pratique s'arrête pas. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'édition, c'est juste une plateforme pour montrer ce qu'on fait ensemble. Donc. Ensemble et avec les autres d'ailleurs.
Et du coup ce nouveau site c'est ça, et aussi c'est la volonté de quand même montrer un peu plus, parce qu'on s'est rendu compte que notre ancien site il nous plaît mais
il y avait beaucoup de choses quand même.
Oui, mais c'est vu que c'était sous forme d'un carrousel et que du coup on informait très peu sur le projet lui-même, on allait mettre une ou deux, allez, trois maximum images d'un projet.
Ouais.
On avait l'impression de pas
c'était un peu
donner
trop propre.
Ce que les gens pouvaient vouloir d'une certaine manière. Et aussi, là, ce qui nous a plu dans ce nouveau layout, c'est en fait de venir piocher des éléments et de mélanger ces éléments.
Décomposer un peu le langage dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Avoir vraiment pouvoir montrer plusieurs éléments séparés les uns des autres. Peut-être que c'est moins clean, moins corporate, mais on trouvait que ça ressemblait mieux à la manière dont on approche les projets.
Ouais.
D'accord. Et on retrouvera toujours la partie fonderie.
Ouais.
Mais la partie lab que vous avez aujourd'hui, qui est du coup votre pratique vraiment pour vous ou par vous,
ouais.
On la retrouve mêlée au reste maintenant.
Ouais.
Ouais. Ouais. C'est une question qu'on s'est souvent posée, en fait. Mais finalement, on s'est dit que l'approche qu'on avait dans ces projets collaboratifs qu'on mettait en place fonctionnait aussi avec les clients.
C'est la même approche, en fait. C'est la même chose.
Ouais. Ça reste nos projets... Quand même quand c'est des clients, on arrive à toujours... on est très impliqués dedans. Et donc, je pense qu'on a voulu qu'il n'y ait plus de différence entre les deux.
Je pense qu'on va potentiellement aussi inclure la typographie dans la page service. La partie type fonderie est nécessaire parce que c'est cool, le côté pratique, en fait.
Pourquoi pas pouvoir cliquer dessus
via la partie service. Parce qu'en fait... Ouais, c'est ça, la partie taille fonderie, c'est le côté pratique. Il faut pour faire
tu
gagner du temps.
Tu veux pouvoir tester ton texte.
Ouais. Ouais. La typographie, on a de plus en plus aussi de projets où on nous demande une custom typeface. Donc, c'est plus juste de la type fonderie en soi où tu produis pour vendre une fonte. C'est aussi, ça fait partie de notre travail en soi, produire des fontes... autant que des identités visuelles.
Et combien de temps c'est vous qui avez fait tout le design, qui avez pensé le site, et c'est quelqu'un d'autre qui fait la partie coding?
Ouais.
Okay. C'est un bon copain qui a fait l'école avec nous.
D'accord.
Et qui a pris le tournant du code.
Ouais.
Et c'est très bien de travailler comme ça, parce que quand tu travailles avec un développeur qui a un regard de designer, ça permet beaucoup de compréhension, d'aller un peu plus vite. Je ne sais pas si c'est vrai.
Peut-être pas tout le temps.
Non, c'est cool.
Il comprend que du coup, on puisse l'embêter pour l'espace entre deux lettres sur la page du site internet, ce qui est quand même qui peut être très énervant quand tu ne comprends pas pourquoi.
Et il fait d'une certaine manière partie d'Edition Studio. Enfin, nous, on considère que Edition Studio... Oui, certes, c'est nous quand les gens lisent la première ligne de notre page about, mais en fait...
C'est tous les gens qui participent.
C'est tous les gens qui participent, et Julien, il fait clairement partie d'Edition Studio, il a fait beaucoup de projets avec nous.
Ouais.
Donc, en fait, sur chaque projet, vous êtes amené à faire appel à plein de collaborateurs ou collaboratrices qui ont une expertise que vous n'avez pas forcément, mais dont le projet a besoin. Mmh. Donc finalement, vous n'êtes pas souvent non plus que tous les deux.
Souvent on a du monde avec. Souvent on a du monde. Ouais. On travaille avec d'autres personnes.
Mmh. Et les projets qui sont perso, du coup, où vous collaborez avec d'autres designers ou artistes, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour pouvoir être plus libre, produire des belles choses? Enfin,
c'est pour le fun.
Ou parfois c'est juste une envie de
collaborer avec telle
personne. Ouais, de collaborer avec la personne, ou on se dit tiens, ou en discutant avec cette personne d'ailleurs, on se dit tiens, on parle et puis on se dit ah, mais on pourrait faire ça. Et on se dit bah ouais, en fait, pourquoi pas le faire? Il y a rien qui nous empêche de le faire, donc faisons-le. Voilà, c'est tout.
Comment est-ce que vous vous nourrissez? Comment est-ce que vous vous nourrissez pour bien travailler?
Pour bien travailler.
Pour stimuler votre créativité.
On sort, on va voir...
Le mieux, le mieux, c'est...
La rue,
c'est d'aller... Le mieux, c'est de sortir, quoi.
Le
mieux, c'est clairement ça.
Nous, on a une petite manie de collectionner des images. que ce soit de photographique, d'images de signes dans la rue.
Ouais, des images de, enfin, de dehors, quoi.
Ou
ouais.
Que ce soit des flyers ou des... Enfin, des choses gratuites qu'on nous donne. On aime bien ce genre de design un peu... parfois qui sont faits par des très bons designers mm-hmm. qu'on aime bien, mais aussi parfois qui sont faits par juste l'imprimeur ouais. Qui répond à une commande de quelqu'un pour une carte.
Ouais, ou... qui a besoin à Chinatown, le owning, comme on dit, les devantures de restaurants, ouais. Ils sont magnifiques. Ça, on en a.
Je peux encore aller dans le quartier.
Ouais, on a une collection de, je sais pas, 200 photos de devantures de bodegas et de magasins à travers New York qui sont des.
Et pas que New York, on fait oui, ça enfin, dans partout, chaque voyage ouais. où on va, on aime faire ce,
ouais.
ce genre de balade.
Ouais. C'est vraiment, je pense que ça, c'est l'esthétique qui nous nourrit le plus. Et du coup, peut-être qu'il revient à la question que tu posais sur la simplicité.
Ouais.
Ce qui nous influence le plus, c'est vraiment ça, en général. C'est cette espèce de geste qui est fait par des designers, mais qui sont aussi imprimeurs ou qui sont aussi... qui produisent les éléments et qui sont faits de manière hyper informative, quoi.
Et comment le lien il se fait? Est-ce que c'est un détail? Est-ce que c'est entre un truc que vous voyez dans la rue
mm-hmm.
pour que ça vous inspire littéralement
ouais.
C'est quoi? Est-ce que c'est un détail, une couleur, ouais, c'est... une couleur?
Ouais, c'est parfois c'est une association de couleurs. Ouais, ça peut être comment le layout, quoi, comment les lettres ont été positionnées, parce que c'est quelque chose qu'un designer à la base ne fait pas ou ne s'autorise pas à faire.
Ouais.
Ou les moments en général les plus intéressants, c'est quand il leur manque quelque chose.
Mm.
Et qu'ils trouvent une solution qui est logique, très simple, mais que, pareil, encore une fois, un designer ne s'autoriserait pas.
Il y a il un livre que je...
Ouais, il manque
et
une lettre.
Ils ont retourné, ils ont mis, je sais pas...
Ouais, il manque un W, ils ont mis un M à l'envers.
Ouais, mm-hmm.
Où il y a un livre que j'aime beaucoup, alors qui a été sûrement fait par des designers, mais qui est, où tout le livre, il est en Helvetica, mais sauf qu'il ne devait pas avoir d'accent dans la fonte. Mm. Et ils ont mis des accents de sérifs dedans.
D'accord.
Sur l'Helvetica. Et c'est trop beau. Enfin, c'est trop bien. En fait, c'est des petits accidents, mais qui rendent l'objet tellement mmh. unique. Mmh. Parce qu'il y a des accents qui se répètent dans un texte, qui sont bien visibles, du coup.
Et après, il faut avoir l'opportunité de pouvoir appliquer ça dans ouais. un vrai projet. On a eu de la chance que certains de nos sujets s'y prêtaient, mais ouais. C'est vrai que...
Et puis on n'est pas obligé de faire forcément ce qu'on voit, mmh. mais en fait, parfois, ça nous permet de juste se dire, en fait, on a la possibilité de faire ça, mmh. ces gestes simples, mmh. ou parfois de se poser moins de questions,
ouais.
de se dire, bon, bah voilà, je suis en train de faire ça, là j'ai un problème, il y a une problématique devant moi, qu'est-ce que je fais si je me prends pas trop la tête comme un designer, qu'est-ce que je fais?
Et est-ce qu'il y a des règles qui, comme ça, au fil du temps, vous vous êtes dit « Non, ça, pour nous, c'est pas une règle importante et on se permet de s'en affranchir. »
Bah, je crois qu'il y a plus... Ouais,
parce qu'on n'a plus d'air trop de règles. On ouais, en avait suivant... trop avant et maintenant, on se libère de ça, en fait.
Vous laissez la liberté.
Ouais.
Ouais.
Avant, okay. on était bourré de règles, je pense.
Ouais. Parce forcément, qu'on parce qu'on a appris aussi.
Ouais.
Comme ça.
Et
parce que c'est ce qu'on transmet aux designers à la base. Mais je pense que c'est important hein, de commencer comme ça. C'est mmh. comme ça qu'on apprend. Mmh. Hein, c'est comme... mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense... Évidemment, on a encore ces règles en tête, mais si l'opportunité, si le projet correspond, eh ben on peut casser n'importe laquelle des règles. Enfin, y a pas, du coup, il n'y a
ouais,
pas
de règles. Et puis, il y a des accidents qui sont des beaux accidents.
Ouais.
On a fait des logos qui sont juste une interpolation de forme et on a aimé
que
l'outil
quoi.
A cassé et on s'est dit bah, c'est ça.
Et est-ce que vous avez un exemple précis sur un des projets qu'on peut retrouver
mm-hmm.
où il y a eu justement un parti pris ou un truc pas habituel que vous avez choisi?
Je pense qu'il y en a plein, ça dépend ce qu'on choisit.
Ouais.
Par exemple, Eva dernièrement.
Ouais, Eva, c'est un très bon exemple.
Donc c'est une artiste américaine qui nous a demandé de faire son site internet. Et en allant dans son atelier pour voir son travail, on s'est rendu compte qu'elle avait cette sorte de machine qui te permet d'imprimer des labels, des étiquettes pour tes boîtes.
Ses boîtes à outils.
Okay.
Et du coup, elle labellisait tous ses outils dans des petits tiroirs et il y avait un nombre énorme de tiroirs. Et nous, on est arrivés dans l'atelier et puis on a pris des photos de ces tiroirs et on s'est dit, mais c'est trop bien parce que quand on est dans son atelier, il y a son travail, il y a cette typo qui est là. Et on est rentré, on a pris notre syndicat grotesque et la typo un peu qu'on peut utiliser
qu'on peut casser,
à nos frais,
on peut faire ce qu'on veut.
Comme on veut. Et on l'a étiré comme la machine étirait la fonte et on s'est dit...
C'était un geste super simple en fait. On a trouvé cet élément typographique qui communiquait déjà dans l'atelier avec... qui répondait à ces sculptures. Et en fait, on est rentré, on a copié ce qu'on avait vu, l'espace, la graisse, etc., dans l'atelier.
La copie, c'est important.
Et en fait, on l'a mis face, on a écrit les captions des œuvres à côté des photos. Et
de
en fait,
manière,
finalement, ça marche.
En essayant d'avoir le même blanc, les mêmes.
Ouais. Ouais. Et ça marchait. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait avant parce que. Bah déjà, là, on nous aurait dit c'est nul cette machine. Déjà, ça a complètement cassé les fontes. Et en fait, non, ça rendait la chose unique, quoi. C'est un geste simple, hein, d'étirer les caractères, mais on aurait pu nous apprendre, en tout cas, que c'était pas bien de faire ça.
Nous, on aime bien étirer les caractères. On n'a pas peur de faire ça. Après, on travaille avec nos fontes, donc on fait ce qu'on veut. Mais ça nous choque pas qu'un designer le fasse avec
ouais,
les
y a pas de...
qu'on vend, on trouve ça cool. Mmh. Sinon, pourquoi l'outil sur Illustrator existerait, en fait? Il existe parce que t'as droit de déformer et de...
Oui, et puis en plus dans la production, c'est toujours plus ou moins déformé de toute façon. On n'a pas le contrôle de tout. Même par exemple, si on fait un livre, entre la version à l'écran plus la version à l'impression, etc., ça change. Tout est en mouvement, quoi.
Et sinon, dans ce même genre de projet, dans la syndicat grotesque, il y a plusieurs R, plusieurs A, plusieurs lettres, en fait, qui, quand on écrit par le code, apparaissent ou pas. Donc, c'est-à-dire que dans une même phrase, tu peux avoir... deux A différents ou
de manière aléatoire,
quand
tu écris, les A, les R, etc. changent. Et en fait, ça s'était inspiré justement de tous ces signes qu'on voyait à New York où les gens.
T'as pas deux fois le même A.
Bah, ils utilisaient l'Arial et l'Helvetica dans le même signe sans se poser de questions.
Et comme cette typo est inspirée de l'Arial et de l'Helvetica, clairement.
De tous ces signes-là, en fait.
Et ben. On a essayé de prendre un peu de l'ADN de ces fontes-là et de tout mettre. Et parfois, ça dérange des gens qui l'utilisent et qui nous disent « Mais il y a un problème. Pourquoi, quand j'écris, ça fait ça ?» Mais c'est toujours possible de voir par Stylistic Set correctement la fonte,
de choisir.
Mais
il y a que les designers qui le voient.
Ouais.
Ça, c'est intéressant
aussi.
C'est
intéressant parce qu'on peut montrer des textes qui ont ça et qui se lisent très bien sans prêter attention.
Et y a, ouais, et les designers voient ça, mais les autres personnes...
Pas les clients.
Non.
C'est cool. Quelles sont vos références?
Si je devais sortir un nom là, qui me passe par la tête, il y a Batya Sutter, qui est une photographe, une artiste qui associe les images... qui fait vraiment de l'association, qui récupère des archives et qui les associe les unes avec les autres, qui est très très forte. Donc ça, c'est une influence en tout cas, que je sais que quand on a des choses à faire, parfois, juste ouvrir un livre d'elle, c'est inspirant.
Et est-ce que vous avez un livre qui vous suit un peu depuis le début, qui est une référence pour vous?
Un livre de texte?
Un livre de texte,
ou
un
d'image.
Livre d'image.
Okay.
Peu importe.
C'est dur parce que ça évolue, je pense. Tu vois, il y a des références que tu as en sortant d'école, que tu as au fur et à mesure du temps qui évolue en ce moment. Je sais pas, on aime bien chiner des livres dans des brocantes qui étaient, enfin, dans des brocantes ou même sur Internet, on les achète en ligne, qui ont des layouts qui sont assez incroyables.
Ouais.
On sait pas trop comment ils en sont arrivés là. On trouve ça hyper contemporain. Et pourtant, c'est des livres qui sentent la poussière.
Ouais.
On en a acheté plusieurs. Il y en a, c'est des livres sur des collections de glace de verre. Il y en a, c'est sur des collections de
ouais, ça peut être
comment faire
quel sujet.
Un bouquet de fleurs, un arrangement de bouquet de fleurs japonais, etc. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient tous un peu cette esthétique. Et donc, quand on les trouve, on les achète et on trouve ça marrant. Bah ça, du coup, c'est
Batia Sauter.
L'artiste dont Adrien parlait, Batia Sauter, qui fait ouais, comme des sortes d'encyclopédies d'images, de collections d'images. Je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, par exemple, dans notre pratique, quand on parlait de la phase 1 où on met des mots, on met aussi beaucoup d'images. Si on te montre une page d'images comme on la présente à un client, parfois... Il y a des
ça peut ressembler à ça, ouais.
Okay. Incongrues, des vieilles images.
C'est des
images.
Questions, c'est ouais, vraiment des questions de rythme et de composition parfois, juste de ressenti.
Qu'est-ce que vous aimeriez bien entendre sur le podcast?
Qui?
Bah ici il y avait Alex Lynn, ouais. On t'avait donné le contact, mais peut-être la prochaine fois
peut-être,
du coup.
Ouais.
Alex Lynn, ça serait intéressant quand même.
Sinon, qui? Et lui qui fait du. Lui, Julien Gobled. Ça serait trop bien.
Lui, ça, je connais
pas. Très intéressé par. Donc, aussi dans le dessin, on va dire. En tout cas, moi, j'appellerais ça du dessin.
Ok.
Et sinon, il y a. Ah oui, il y a en design graphique.
Il y a une fille.
Anne Butner, alors qui est suisse. Donc, je sais pas si elle parle. Enfin, je sais pas. Au quotidien,
ouais.
Si elle parle suisse-allemand ou français, qui s'appelle Anne Butner.
Parfait. Je vais vous poser des petits paramètres graphiques, justement, pour que je puisse démarrer et composer une cover.
Mm-hmm.
Est-ce que vous arrivez à me donner une typo libre de droit que je puisse utiliser?
La Mignon. Elle n'est pas libre, ouais. De droit, mais elle est disponible sur son ordinateur.
Ok.
Du coup, elle l'est.
Oui.
Ouais, tu sais pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui...
C'est la typographie qu'on met quelque base.
Ouais.
Et à chaque fois qu'on a commencé un projet et qu'il y avait le texte en Mignon, ouais. Qui apparaissait, on s'est dit, mais elle est trop belle, cette police.
Vous l'avez jamais utilisée.
Et on l'a jamais utilisée encore. Et en plus, on a toujours trouvé hyper intéressant le fait que personne n'utilise la Mignon.
Ouais.
Pas, et pourquoi?
Mais en fait, c'est parce que c'est un défaut. Ouais,
voilà, ouais. Parce qu'elle est de par défaut, ouais. Tout le monde veut la changer.
Personne
se dit, mais en fait, elle est superbe.
Ok. J'ai jamais vraiment regardé, du coup, mais alors, ok.
Et
en plus, je crois que maintenant, elle est variable. Donc.
Est-ce que vous préférez noir sur blanc ou blanc sur noir?
Noir sur blanc.
Noir sur blanc, ouais.
Ok. Trop petit ou trop grand?
Ah bah, j'ai envie de dire maintenant un peu trop grand, je trouve ça.
Ouais, changer. Pas.
Et
ou entre les deux.
Oui, ok.
Non, trop grand, c'est bien.
Trop grand, on fait de plus en plus de choses
ouais,
grandes.
Ouais, c'est vrai.
Grand. Avant, on faisait tout trop petit.
Et plutôt par-dessus ou par-dessous?
Par-dessus.
Allez, okay. Par-dessus.
Bah ouais. De manière spontanée.
Ouais. Oui, c'est ce qui...
Parfait.
Qui a du sens.
Je crois qu'on a terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Si. Est-ce que vous avez un conseil?
Un conseil?
Ouais.
Aïe, aïe.
On terminera là-dessus. Ouais. Ou peut-être le conseil, c'est pas de conseil, mais. Ou quelque chose que vous avez, au fil du temps, compris, appris, vous auriez fait différemment, ou. Je sais pas, souhaiter bon courage aux gens qui se lancent maintenant.
Bah, je pense que, ouais, de nos expériences, faut pas avoir peur de changer aussi. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai envie de dire.
Ouais, de pas être arrêté sur les choses. Et pas, moi, c'est bizarre, peut-être que c'est une connerie, je te dirais peut-être de l'enlever.
Ouais.
Mais je dirais de ne pas essayer d'être créatif.
Ça veut dire quoi?
De ne pas essayer de faire des choses nouvelles.
Ok.
Ouais, il ne faut pas avoir peur de copier. Je pense que c'est bien ce mot-là à dire, copier.
Parce que d'une, ça prend la tête.
Ouais.
D'essayer d'être original ou de... et je pense que quand on s'occupe pas de ça, on a plus de chances de faire quelque chose d'intéressant.
J'espère que tu me demanderas pas de l'enlever parce que c'est un très bon conseil. Merci pour tout, pour ces 1h30 hyper intéressantes.
Pas de problème, avec plaisir.